Chapitre 22. Ses doigts parcoururent les montants du métier, caressant les fils de la trame à la manière d'un maître d'écurie qui flatte un cheval de course. Sans poser aucune question, elle parut assimiler son fonctionnement d'un simple contact. La lumière provenant de la fenêtre éclaira ses mains comme si elle souhaitait illuminer son ouvrage. Soigneusement, Pénélope enleva ma tapisserie à moitié terminée du cadre qu'elle tendit de laine noire. Ses gestes étaient précis, dépourvus de mouvements superflus. C'était une nageuse, m'avait expliqué Ulysse, dont les membres élancés la menaient sans effort à destination. Dehors, le ciel avait changé. Les nuages étaient si bas qu'ils paraissaient frôler les fenêtres, et j'entendais les premières grosses gouttes de pluie se mettre à tomber. Télémaque et Télégonos entrèrent en coup de vent, mouillés d'avoir traîné le bateau. Quand Télégonos vit Pénélope assise au métier, il se précipita vers elle, s'extasiant déjà sur la finesse de son travail. J'observai Télémaque. Ses traits se durcirent et il se détourna brusquement vers la fenêtre. Je sortis le déjeuner, que nous mangeâmes presque en silence. La pluie s'atténua. Incapable de supporter l'idée de rester enfermé tout l'après-midi, j'entraînai mon fils dans une promenade sur la grève. Le sable était si dur et humide qu'on aurait dit que les traces de nos pas étaient sculptées au couteau. Je passai mon bras dans le sien, surprise qu'il se laisse faire. Ses tremblements de la veille avaient disparu, mais je savais qu'il reviendrait. Bien qu'il ne soit qu'un peu plus de midi, l'air avait quelque chose de crépusculaire et d'obscur, pareil à un voile sur mes yeux. Ma conversation avec Pénélope me tracassait. Sur le moment, je m'étais sentie intelligente et vive, mais maintenant que je la repassais dans ma tête, je me rendais compte à quel point elle en avait peu dit. J'avais eu l'intention de la questionner et je m'étais retrouvée en train de lui montrer mon métier à tisser. À la place, c'est la sorcière dont il est venu à bout en parlant. « Qui a eu l'idée de venir ici ? » manquis-je. La soudaineté de ma question fit froncer les sourcils à Télégonos. « C'est important ? » ?»« Simple curiosité. » »« Je ne m'en souviens pas. » Toutefois, il ne me regarda pas en face. « Pas toi. » Il hésita. « Non, j'avais suggéré Sparte. » C'était logique. Le père de Pénélope y vivait, sa cousine en était reine, une veuve y aurait été bien accueillie. Tu n'as donc pas mentionné Ea ? Non, je me suis dit que ce serait... Il ne termina pas sa phrase. Indélicat, bien sûr. Alors qui en a parlé en premier ?
Peut-être la reine. Je me rappelle qu'elle a dit préférer ne pas aller à Sparte, qu'elle voulait prendre un peu de temps.
Il choisissait soigneusement ses mots. Je sentis un bourdonnement sous ma peau. Du temps pourquoi ?
Elle ne l'a pas précisé.
Pénélope, la tisseuse, capable de vous manipuler comme le fil de trame pour accomplir ses desseins. Nous traversions des fourrés, gravissant la pente sous les branches sombres et mouillées. C'est étrange. Ne pensait-elle pas être la bienvenue dans sa famille ? S'est-elle querellée avec Hélène ? A-t-elle évoqué des ennemis ?
Je ne sais pas, non. Bien sûr qu'elle n'a évoqué aucun ennemi.
Et Télémaque, qu'a-t-il dit ?
Il n'était pas là.
Mais quand il a appris que vous alliez venir ici, il était étonné.
Mère,
dis-moi juste quel mot elle a employé, exactement comme tu t'en souviens. Il s'était arrêté sur le chemin.
Je croyais que tu ne le soupçonnais plus.
Pas de vouloir se venger, mais il y a d'autres problèmes. Il inspira profondément.
Je ne m'en souviens pas exactement, ni des mots qu'elle a employés, ni de quoi que ce soit d'autre. C'est comme une brume grise, encore maintenant.
La douleur avait envahi son visage. Je n'en dis pas plus, mais à mesure que nous marchions, mon esprit continua à triturer cette pensée, telle des doigts qui cherchent à défaire un nœud. Il y avait un secret derrière cette soie d'araignée. Elle n'avait pas voulu aller à Sparte. Au lieu de ça, elle s'était rendue sur l'île de la maîtresse de son mari. Et elle avait besoin de temps. Dans quel but ? Nous étions arrivés à la maison. À l'intérieur, Pénélope travaillait sur le métier à tisser. Télémaque était debout près de la fenêtre. Il avait les poings serrés contre ses flancs et l'atmosphère était lourde. S'était-il disputé? Je scrutai le visage de Pénélope. Il était penché sur son ouvrage sans rien révéler. Personne ne criait, personne ne pleurait, mais je songeais que j'aurais préféré cela à une tension sourde. Télégonos s'éclaircit la gorge.
« J'ai soif. Quelqu'un d'autre aimerait-il une coupe ?»
Je l'observais tandis qu'il ouvrait le fût et versait le vin. Mon fils au cœur vaillant. Malgré son chagrin, il cherchait à nous soutenir, à nous aider à passer à l'instant suivant. Sauf qu'il ne pouvait pas faire de miracle. L'après-midi se déroula en silence. Au dîner, ce fut la même chose. Sitôt la nourriture débarrassée, Pénélope se leva.
« Je suis fatiguée, »
annonça-t-elle. Télégonos resta un peu plus longtemps, mais dès que la lune se fut levée, il se cacha derrière ses mains pour bâiller. Je l'envoyai se coucher avec Arcturus. Je m'attendais à ce que Télémaque le suive. Lorsque je me retournai, il était toujours à sa place.
« Je suppose que tu as des histoires à raconter sur mon père ?»
commença-t-il.
« J'aimerais les entendre. »
Son audace ne cessait de me surprendre. Toute la journée, il était resté en retrait, évitant mon regard, timide et presque invisible. Et voilà qu'il se plantait subitement devant moi, comme s'il habitait là depuis 50 ans. C'était une technique que même Ulysse aurait admirée. « Tu sais probablement déjà tout ce que j'ai à dire. »«
Non. »
Ce mot résonna un peu dans la pièce.
Il a bien raconté ses histoires à ma mère, mais à chaque fois que je le lui demandais, il me disait d'aller trouver un barde.
Quelle réponse cruelle! Qu'est-ce qu'Ulysse avait pu avoir en tête? Était-ce de la malveillance pure? S'il avait eu un autre but, nous ne le saurions jamais. Les actes de toute sa vie devaient désormais rester tels qu'ils étaient. J'apportai mon gobelet près du feu. Dehors, l'orage était revenu, emmitouflant la maison dans un cocon de vent et de pluie. Pénélope et Télégonos étaient juste au bout du couloir, mais les ombres s'étaient massées autour de nous, donnant l'impression qu'ils se trouvaient au bout du monde. Cette fois, je pris le siège en argent. Ses incrustations étaient fraîches contre mes poignets. Les peaux de vache glissèrent légèrement sous moi.
« Que veux-tu entendre ?»«
Tout. Tout ce que tu sais. »
Je n'envisageais même pas de lui donner les versions que j'avais racontées à Télégonos, avec leurs fins heureuses et leurs blessures vénielles. Ce n'était pas mon enfant. Ce n'était pas un enfant du tout, mais un homme dans la force de l'âge, désireux de connaître son héritage. Je lui racontai tout. Le meurtre de Palamède et l'abandon de Philoctète. La ruse qu'Ulysse avait utilisée pour contraindre Achille à sortir de sa cachette et venir combattre. La fois où il s'était glissé par une nuit sans lune dans le camp du roi Rhésos, l'un des alliés de Troie, pour trancher la gorge de ses hommes dans leur sommeil. Comment il avait élaboré le stratagème du cheval, pris Troie, et vu Astyanax se faire mettre en pièces. Et puis le sauvage voyage du retour, avec ses cannibales et ses monstres. Ces histoires étaient encore plus sanglantes que dans mon souvenir, et j'hésitais à plusieurs reprises. Télémaque encaissa le coup sans broncher. Il resta assis en silence, les yeux rivés sur moi. Je gardai l'histoire des cyclopes pour la fin, j'ignore pourquoi. Peut-être parce que je me souvenais encore si clairement d'Ulysse me la racontant. Pendant que je parlais, ces mots semblaient murmurer sous les miens. Après avoir abordé sur une île, épuisés, ils avaient découvert une large grotte regorgeant de réserves abondantes. Ulysse pensait qu'il pourrait la piller ou mendier l'hospitalité à ses habitants. Ils commencèrent à se repaître de la nourriture de la grotte. Le géant auquel elle appartenait, le berger à l'œil unique Polyphème, revint alors avec son troupeau et les prit sur le fait. Il plaça une grosse pierre devant l'entrée pour les y enfermer, avant de saisir l'un des hommes et de le trancher en deux d'un coup de dent. Il engloutit tous les soldats l'un après l'autre, jusqu'à en être si repu qu'il recracha des morceaux de membres humains. En dépit de ces horreurs, Ulysse gava le monstre de vin et de paroles amicales. Il se présenta comme Outis, personne. Lorsque la créature sombra enfin dans un sommeil alcoolisé, Il affûta un gros pieu qu'il chauffa sur le feu avant de le plonger dans son œil. Le cyclope rugit et se débattit, mais comme il ne voyait rien, il ne put attraper Ulysse ni le reste de sa troupe. Ces derniers parvinrent à s'enfuir au moment où le monstre laissait ses moutons sortir pour paître, chaque homme accroché sous le ventre d'une bête laineuse. Enragé, le cyclope demanda de l'aide à ses camarades à un œil, qui ne vinrent pas, car il avait crié « Personne m'a crevé l'œil! Personne s'enfuit !» Ulysse et ses camarades atteignirent les navires, et une fois à distance respectueuse, Ulysse se retourna pour hurler par-dessus les vagues. « Si tu veux savoir qui est l'homme qui t'a piégé, c'est Ulysse, fils de Laërte et prince d'Ithaque !» Ces mots parurent résonner dans l'atmosphère silencieuse. Télémaque se taisait, comme s'il attendait que le bruit s'estompe. Puis il finit par déclarer. « C'était une mauvaise vie. Il y en a beaucoup de plus malheureuses. »«
Non !»
Sa véhémence m'effraya.
« Je ne veux pas dire mauvaise pour lui. Je veux dire qu'il a rendu celle des autres affreuse. Pourquoi ces hommes sont-ils allés dans la grotte au départ? Parce qu'ils voulaient accumuler davantage de richesses. » Et la colère de Poséidon, pour laquelle tout le monde l'a plaint, il l'avait bien cherchée, parce qu'il ne supportait pas l'idée de laisser le cyclope sans pouvoir se vanter de l'avoir berné.
Ses paroles coulaient comme un flot impossible à endiguer.
Toutes ces années de douleur et d'errance, et pourquoi? Pour un instant de gloire. Il préférait être maudit des dieux que d'être personne. S'il était rentré chez nous directement après la guerre, les prétendants ne seraient jamais venus. La vie de ma mère n'aurait pas été marquée par le malheur, ni la mienne. Il se plaignait souvent que nous lui manquions, nous et sa maison, mais c'était un mensonge. De retour à Ithaque, il n'était jamais satisfait, toujours en train de contempler l'horizon. Quand nous avons de nouveau été à lui, il a désiré autre chose. Qu'est-ce que c'est sinon une mauvaise vie? Attirer les autres à soi pour mieux les repousser.
J'ouvris la bouche pour dire que c'était faux. Cependant, combien de fois étais-je restée allongée à ses côtés, souffrant de savoir qu'il pensait à Pénélope? Cela avait été mon choix. Télémaque, lui, n'avait pas eu ce luxe. Je dois te raconter une dernière histoire. Avant le retour de ton père, les dieux ont exigé qu'il se rende aux enfers pour parler au prophète Tirésias. Là-bas, il a rencontré beaucoup d'âmes qu'il avait connues durant sa vie, Ajax, Agamemnon, et parmi eux Achille, qui fut jadis le meilleur des Grecs et qui choisit de mourir jeune pour bénéficier d'une gloire éternelle. Ton père a parlé chaleureusement à ce héros, chantant ses louanges et l'assurant de sa réputation parmi les hommes. Mais Achille l'a accablé de reproches. Il lui a dit qu'il regrettait son existence glorieuse et qu'il aurait aimé vivre plus calmement et plus paisiblement.
Alors c'est ce que je dois espérer? Rencontrer mon père aux enfers un jour pour l'entendre me dire qu'il est désolé?
C'est mieux que ce qui échoua à certains d'entre nous. Néanmoins, je tins ma langue. Il avait le droit d'être en colère, et ce n'était pas mon rôle d'essayer de l'en priver. Dehors, un léger bruissement montait du jardin où les lions rôdaient dans les feuilles. Le ciel s'était dégagé. Après être resté si longtemps caché derrière les nuages, les étoiles paraissaient très lumineuses, accrochées dans le noir, telles des lanternes. En tendant l'oreille, nous aurions sans doute entendu le léger tintement de leurs chaînes dans la brise.
« Crois-tu que ce que mon père a dit est vrai? Que les hommes bons ne l'ont jamais apprécié ?»
Je crois que c'est le genre de choses qu'Ulysse aimait dire, et que la vérité n'a rien à voir là-dedans. Après tout, ta mère l'appréciait. Ses yeux trouvèrent les miens.
Et toi aussi.
Je ne prétends pas être bonne.
Pourtant, tu l'appréciais, en dépit de tout cela.
Sa voix était emplie de défis. Je m'aperçus que je choisissais mes mots avec précaution. Disons que je ne voyais pas le pire en lui. Même dans ses meilleurs moments, ce n'était pas un homme facile. Cela dit, il a été mon ami à une période où j'en avais besoin.
C'est étrange de penser qu'une déesse puisse avoir besoin d'amis. Toutes les créatures qui ne sont pas folles en ont besoin. Je crois que c'est lui qui a fait la meilleure affaire. J'ai tout de même changé ses hommes en pourceaux.
Il ne sourit pas. Il ressemblait à une flèche pointée au bout de son arc.
Tous ces dieux et ces mortels qui l'ont aidé. Les hommes parlent de ses tours, alors que son véritable talent était son immense capacité à prendre aux autres.
Beaucoup seraient ravis de posséder un tel don.
Pas moi.
Il posa sa coupe.
Je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps, Dame Circé. Je te suis reconnaissant de m'avoir dit la vérité sur ces histoires. Peu de gens ont pris cette peine avec moi.
Je ne lui répondis pas. Quelque chose s'était mis à me tarabuster au point de me donner la chair de poule.
Pourquoi êtes-vous venu ?
Il cligna des paupières. Je te l'ai déjà dit, nous étions obligés de quitter Ithaque.
Oui, mais pourquoi ici ?
Il posa sa coupe lentement, tel un homme qui sort d'un songe. Je crois que c'était une idée de ma mère.
Pourquoi ?
Ses joues s'empourprèrent. Comme je l'ai déjà mentionné, elle ne me fait pas de confidences.
Personne ne peut deviner ce que va faire ma mère jusqu'à ce qu'elle l'ait fait. Il tourna les talons, se fondant dans l'obscurité de la pièce.
Quelques secondes plus tard, j'entendis le léger bruit de sa porte qui se refermait. L'air froid semblait s'engouffrer dans les fissures des murs, me clouant sur mon siège. J'avais été stupide. J'aurais dû la coincer au-dessus de la falaise le premier jour et la forcer à dire la vérité. Je me souvins de l'attention avec laquelle elle m'avait questionné sur mon sort, celui qui pouvait arrêter les dieux, même les Olympiens. Je ne me précipitais pas dans sa chambre pour arracher la porte de ses gonds. Je brûlais de rage devant ma fenêtre. La pluie craqua sous mes doigts. L'aube n'arriverait que dans des heures, mais pour moi cela ne représentait qu'un instant. J'observais l'éclat des étoiles faiblir dehors, l'île émerger, brin d'herbe par brin d'herbe, dans la lumière. L'atmosphère avait de nouveau changé et le ciel s'était voilé. Encore un orage. Les branches des cyprès sifflaient dans le vent.